C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique, l'émission qui alerte sur la prolifération des paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Ici, nous décortiquons le langage, les mots et les discours qui façonnent et parfois même fracturent notre société, Babel.
Bonjour Polly, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet complexe, l'épineuse question du langage séparatiste. Ce langage qui traduit parfois un mal-être et des frustrations profondes remet en question l'unité nationale et l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation.
Oui, Babel, l'histoire de l'Afrique et même en particulier celle de notre pays, la RDC, est une histoire de diversité. Nos langues, nos cultures, nos traditions sont multiples. Mais ces identités diverses cohabitent au sein d'un État qui a hérité de frontières dessinées par le colonisateur. Et le tracé de ces frontières n'a pas toujours tenu compte de nos réalités sociologiques, culturelles et même historiques, Babel.
Tout à fait, Polly. Et parfois, ces réalités latentes éclatent au grand jour. Elles s'expriment à travers un discours prônant la séparation du groupe national.
En République démocratique du Congo, ce type de discours est apparu dès le début des années 60, au lendemain de l'accession du pays à l'indépendance. Des régions comme le Kasaï ou encore le Katanga proclament alors leur autonomie et provoquent un conflit ouvert avec le pouvoir de Kinshasa.
Mais les relents du discours séparatiste subsistent encore aujourd'hui, Polly. Et certains leaders politiques n'hésitent pas à recourir à la rhétorique séparatiste à chaque fois qu'ils s'estiment marginalisés ou victimes d'injustice.
Alors comment analyser ces discours séparatistes? Quelle menace ce type de langage présente pour la paix et même la cohésion nationale? Et surtout, comment pouvons-nous ensemble renforcer le sentiment d'appartenance à une nation unie malgré nos différences et nos divergences?
Pour répondre à ces questions complexes, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. D'abord, Itiel Batoumiké, analyste politique et chercheur à Ebouteli, l'Institut congolais pour la recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Bonjour Itiel et merci d'être avec nous.
Bonjour madame, bonjour aux co-débatteurs et à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Merci d'être avec nous. Avec nous également Alain-Joseph Lomanja, il est docteur en éthique sociale. Bonjour Alain-Joseph Lomanja.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à Étienne et bonjour à tous les auditeurs.
Merci docteur Alain-Joseph Lomanja. Avant d'ouvrir cette discussion, écoutons un premier extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette scène qui se déroule dans le cadre d'un milieu universitaire avec des étudiants illustre parfaitement la manière dont émerge le langage séparatiste. On écoute.
Mais les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne comprends rien.
Mais qu'est-ce que...
Non.
Mais c'est quoi ça? Moi, je ne suis pas d'accord avec elle.
Je vous jure, je ne suis pas d'accord. C'est pas normal, ça.
S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Non.
S'il vous plaît. Mais permettez-moi au moins que je termine.
Non, on va pas. On en a marre, si.
Écoutez. Je disais qu'on est ici pour analyser ensemble la situation de notre association des étudiants et des...
Non, Kitoko. Non, mais
que je finisse.
Non, Malizenini. Nous sommes fatigués de ta politique de démascarade venant de votre faculté. On n'a plus rien à foutre de votre association là.
Quoi?
Mais t'as entendu?
Mais tout est clair. Tout est clair que depuis que toi et ton équipe avez accédé à cette fonction de diriger l'association, rien n'a été géré correctement. Rien.
Mais Mbouta, j'avoue aussi qu'il y a eu quelques problèmes et c'est pour cette raison que j'ai convoqué cette réunion pour que nous puissions analyser la situation ensemble et chercher des solutions.
Non, merci. Non, oui. Non. Vraiment, on n'a plus envie d'être associés dans cette histoire. on ne mélange pas les pommes de terre pourries avec celles qui sont en bon état.
Mais qu'est-ce que
Amani, Amani, mon frère.
Nin,
un peu dans ton verre quand même.
Ah,
un peu d'eau dans ton vin, frère. Je croyais plutôt que l'union fait la force.
Vraiment.
Quand il y a des problèmes, c'est plus facile de chercher des solutions en commun.
Oui,
désolé, mais nous refusons de faire l'union avec des parasites qui viennent d'une autre faculté.
Parasites.
Oui, vous êtes des parasites.
Des parasites.
Ah. Les amis, d'ailleurs, vous savez que notre faculté est la plus grande de toute l'université.
Oui.
Vous savez ça?
Oui, c'est vrai. Mais tout à fait. Nous sommes même les premiers qui donnent le plus de contributions à cette association.
Et en conclusion, à cause de la mauvaise gestion de Kitoko et son équipe qui dilapide tous les budgets, les étudiants de notre faculté n'en avons rien gagné jusqu'ici.
Non, mais Ozo Lobani.
Désormais, nous allons tous nous retirer de cette association dirigée par des voleurs.
Ah oui, hein.
Et créer notre propre structure. On va mieux gérer les choses nous-mêmes ici.
Oui.
Les choses vont changer.
D'accord.
On n'a plus envie d'être associé à cette histoire. On ne mélange pas les pommes de terre pourries avec celles qui sont en bon état, peut-on entendre dans ce sketch. C'est donc un langage révélateur. Alain-Joseph Lomanja, pourquoi est-ce que certains leaders d'opinion se lancent-ils sur des discours séparatistes? Quelles sont les origines historiques et même sociologiques du langage séparatiste en République démocratique du Congo?
Alors, je pourrais peut-être commencer par... un petit détour, quand on regarde les constitutions des États modernes, on a parfois l'impression qu'il existe une forme de philosophie du droit qui marque le premier article de ces constitutions-là. Par exemple, pour l'Allemagne qui a connu l'Holocauste du peuple juif et puis tous les drames humanitaires liés à la Deuxième Guerre mondiale, le premier article de la Constitution commence par la dignité de la personne humaine. Et si vous regardez notre premier article, le premier article de notre Constitution congolaise, vous allez voir qu'il insiste sur l'unité et l'indivisibilité du pays. Je crois qu'on peut voir derrière cet article-là une blessure historique, entre guillemets, le fait des sécessions que vous avez déjà évoquées et qui ont fragilisé à un moment donné de notre histoire le sentiment d'appartenance à une même nation. Ce sentiment-là n'a pas toujours existé dès le début, comme vous l'avez souligné, mais c'est aussi le fait que après la Deuxième République, au moment où l'unité qui a été façonnée de force pendant la Deuxième République s'est fissurée, on a vu la résurgence des identités tribales qui ont montré que nous n'avons pas réussi, en tout cas pas toujours réussi, à construire une identité nationale qui inclut et transcende en même temps les identités tribales.
Mais justement, qu'est-ce qui pousse certains leaders politiques d'hier et même d'aujourd'hui à recourir à ce type de langage séparatiste?
Le langage, il traduit les convictions, parfois des convictions politiques. On utilise la donne tribale, la donne ethnique, la donne des appartenances non universalisables, si je peux parler en ces termes-là, pour peut-être la conquête du pouvoir, peut-être pour asseoir son autorité, peut-être pour être élu, accéder au mandat électif. Il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer cela. Peut-être parce qu'on a la concurrence vis-à-vis. Donc, il y a toujours plusieurs éléments, plusieurs facteurs. Ils sont d'ordre politique, ils sont d'ordre économique, ils sont d'ordre socio-culturel qui peuvent expliquer le recours à ces langages-là.
Merci, Joseph Lomanja. Nous tournons à présent vers vous, Monsieur Itiel Batoumouké. Dans un État démocratique, est-ce qu'il est possible d'envisager un débat ouvert sur l'opportunité ou non de proclamer l'indépendance d'une partie du pays, et sachant que le principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation est consacré notamment par l'Union africaine et les lois nationales? Ce type de débat est-il automatiquement considéré comme illégal et donc interdit, Monsieur Batoumouké?
Merci pour la question. Je pense que je ne reviens plus sur tout ce que vous avez dit. Est-ce que le père Alain-Joseph Lomanja venait d'expliquer très clairement? Je pense que dans le contexte des constitutions des États africains aujourd'hui, qui est en fait un héritage du passé colonial, on ne peut pas interdire à un peuple, parce qu'on a plusieurs peuples au Congo, et l'idéal serait de former une nation qui peine à être construite aujourd'hui, comme on venait de l'expliquer. Et donc, dans ce contexte-là où on peine à construire une nation, il n'est pas interdit et ce n'est pas un crime si une partie de la nation une partie du peuple revendique les droits de s'autodéterminer. Donc ce n'est pas une infraction parce que le droit international le reconnaît. Il y a à travers, en tout cas autour de nous, déjà des pays qui ont expérimenté une telle expérience.
Le Soudan
qui a fait une succession d'États entre le Soudan et le Soudan du Sud. Aujourd'hui, c'est un exemple qui peut être évoqué pour montrer qu'il n'est pas interdit et que ce n'est pas un crime lorsque une partie du peuple demande d'être indépendant et de constituer un État. Mais ce n'est pas l'idéal pour un État, pour une nation. Je pense que le Congo gagne en restant uni. Le Congo, dans sa grandeur aujourd'hui, peut aller mieux que si on allait dans nos différentes particularités, comme le dit la Constitution, qu'il faut considérer qu'on est uni par le destin, par l'histoire, et que il faut qu'on, au-delà de nos divergences, qu'on essaye de nos particularités culturelles, notamment, qu'on essaie de bâtir au cœur de l'Afrique une grande nation.
Merci Itiel Batomike pour cette première analyse. À présent, je vous invite à écouter un deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique, toujours avec les étudiants. On va voir cette fois-ci comment les discours séparatistes surfent dangereusement sur la vague des frustrations et des émotions de l'opinion publique. On l'écoute.
Les gars, que personne ne vous intimide. Vous m'entendez? Est-ce qu'on est ensemble?
Oui!
Tout le monde pas moi?
Oui!
Eh oui, nous allons créer notre propre association, plus authentique et basée sur les retours aux valeurs fondamentales qui ont été bafouées à cause de ces faux dirigeants.
Oui, d'accord,
Amani,
Quoi?
Si vous osez vous retirer, je répète, si vous osez vous retirer, nous allons considérer que vous mettez en péril l'unité de tous les étudiants de cette université.
N'importe
Je
quoi.
Vous le dis.
D'ailleurs,
ça,
on va considérer ça comme un acte de séparatisme. Oui, vous prouvez que vous ne méritez pas d'être considéré comme des vrais membres de la communauté universitaire.
Ouais, vous êtes des rebelles.
Des rebelles.
Oui, vous êtes des rebelles.
Des bandits.
Oui, vous êtes des rebelles qui veulent détruire toute l'unité de la communauté universitaire. Vous êtes des rebelles, vraiment.
Ouais,
je le dis vraiment.
Tu n'as rien compris.
C'est toi qui n'as rien compris.
Je te rappelle que lorsqu'une partie du corps est gangrénée, vaut mieux couper la partie malade pour séparer le reste du corps encore sain.
Mais oui. Toi, Kitoko, et votre association bidon, là, on ne vous reconnaît plus.
Vous êtes des rebelles qui veulent détruire toute l'unité de la communauté universitaire, avertit l'un des étudiants dans ce sketch. Itiel Batomike, peut-on dire que les discours séparatistes peuvent être instrumentalisés à des fins politiques? Et si oui, quelles peuvent être les conséquences d'une telle instrumentalisation?
Et évidemment, comme le disait déjà le père Alain Joseph, parmi les facteurs des discours séparatistes, c'est souvent la politique. On voit que des acteurs politiques, ils instrumentalisent leur population, leurs frères tribaux pour pouvoir arriver à leur fin. On a eu des crises, que ce soit au Kasai, plutôt au Katanga ou au Kivu à un moment donné. C'est généralement des crises qui sont liées au fait que les politiques essaie d'instrumentaliser d'instrumentaliser les tribus pour pouvoir s'opposer les unes contre les autres. Mais malheureusement, ce genre d'instrumentalisation peut arriver à créer des crises aussi graves qu'on ne peut l'imaginer, puisque vous allez voir ce qui s'est passé au Rwanda avec les génocides. C'était dit notamment à une instrumentalisation politique. Si on voit ce qui s'est passé au Katanga contre les originaires du Kasaï à un moment donné, ou ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a quelques années contre les populations d'expression Kinyarwanda dans le Kivu. Et donc, c'est très dangereux parce que on peut arriver à des génocides, on peut arriver à des massacres, mais en même temps, comme le dit l'exposé de motifs de notre Constitution, ces pratiques de népotisme, de tribalisme, de régionalisme sont à la base, en fait, de la stagnation de notre pays qui n'évolue pas sur le plan économique. On ne peut pas avoir un pays qui se développe tant que le peuple n'est pas uni autour de certaines valeurs et de certains idéaux.
Le discours séparatiste font traîner le développement du pays. Vous venez de le dire, Itiel Batoumike. Alors, Alain-Joseph Lomanja, la RDC, on le sait, a traversé et traverse encore des épisodes marqués par des tendances séparatistes, que ce soit au lendemain de l'indépendance ou dans les cadres du conflit en cours dans l'Est du pays. Dans ce contexte, de quelle manière le langage séparatiste impacte-t-il l'unité et la cohésion nationale?
Il y a déjà le regard que l'on porte sur le concitoyen, les compatriotes, qui peut être fortement impacté, et fortement, c'est-à-dire négativement impacté. Là, je suis sur le plan social et culturel, c'est-à-dire que du jour au lendemain, pour des gens qui appartiennent à un même pays, on peut avoir les sentiments que parmi nous, il y a des gens qui sont étrangers, qui ne sont pas véritablement des citoyens du pays. On peut se retrouver dans un discours politique considéré comme des étrangers. J'ai toujours le sentiment que la plupart des compatriotes qui sont originaires de l'Est, quand ils arrivent à l'Ouest, et notamment à Kinshasa, ils ont les sentiments de n'être pas considérés comme des citoyens congolais à 100%, parce que peut-être à cause de la consonance des noms ou je ne sais pas quoi, ou de la langue, ou de plusieurs facteurs sociaux, et ils ne se sentent pas totalement accueillis. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui doit être fait positivement, c'est la construction d'une identité nationale qui se comprend d'abord comme une identité plurielle, qui regroupe plusieurs tribus, plusieurs ethnies. Et ce travail-là, il doit commencer dans les familles, dans les écoles. Et si nous arrivons à cimenter cette conscience-là, alors on peut ne plus s'étonner que quand, par exemple, Bukavu tombe sous la pression des rebelles du M23 il y a quelques années, qu'on s'élève à Kinshasa, à Lodja, à Goma, et que ce soit tous les citoyens qui s'élèvent pour protéger la nation congolaise. Je pense que nous pouvons travailler à ça.
Merci encore une fois, Alain-Joseph Lomanja. Je vous propose maintenant d'écouter un troisième et un dernier extrait de notre feuilleton radiophonique, toujours avec les étudiants. On va voir qu'ils finissent finalement par réaliser le danger des paroles séparatistes et même à envisager une manière de communiquer plus inclusive. On écoute.
Fanine, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous bloquez l'accès aux activités universitaires? C'est nous tous qui allons perdre. Pourquoi Fanine? Qu'est-ce que vous faites là?
Hein? Nous on avait compris que tu nous disais qu'on n'avait plus rien à voir avec cette association dirigée par Kitoko.
Oh!
Et qu'on pouvait donc tout saboter. Et bien voilà, personne entre encore dans cette université.
Mais non, c'était juste une façon de dénoncer la mauvaise gestion de Kitoko et son comité.
C'était juste ça. Mais on pensait que...
Non. J'espère que tu viens de comprendre que la solution n'était pas de tenir ces langages séparatistes. Non, tu ne devais pas.
Les amis.
Ouais.
Mais quand il y a un moment, tu ne te mourras. Dans n'importe quelle société, dont aussi l'université, il y aura toujours des problèmes. Même si vous arrivez à créer votre propre association, c'est sûr que vous aurez aussi des problèmes dans l'interne.
Et finalement, si chaque fois qu'il y a des choses sur lesquelles on ne s'entend pas, on se met à tenir ces langages, ces genres de discours séparatistes, avec toutes les conséquences qu'on vient de voir, il restera quoi de la communauté universitaire?
Les amis,
Nazomi Tuna,
les amis,
je me demande,
l'université est un endroit d'apprentissage. Si nous décidons déjà au sein de l'université de fuir les solutions en créant chaque fois une association séparatiste, comment allons-nous faire dans la vraie vie?
Bonne question. Bonne question. Je pense qu'il est temps pour chacun de nous de commencer à prendre la responsabilité de gérer les problèmes qui nous concernent, sachant que dans la vraie vie, on n'aura pas toujours l'option de se séparer ou de fuir.
C'est ça.
J'espère que tu viens de comprendre que la solution n'était pas de tenir ce langage séparatiste, finit par conclure l'un des étudiants. C'est donc là une belle leçon qu'on vient de voir dans ce dernier extrait, Alain-Joseph Lomanja. Mais selon vous, comment pouvons-nous, en tant que société congolaise, développer un discours national inclusif qui réponde davantage de manière plus appropriée aux frustrations des uns et des autres, sans forcément tomber dans les pièges du séparatisme?
Alors, quand on parle de frustration, je pense qu'il faut peut-être aller dans le fond des choses et essayer de regarder les vrais problèmes qui causent ces frustrations-là, parce que les frustrations peuvent être passagères, mais quand les problèmes structurels ne sont pas abordés et qu'on n'y trouve pas de solution, ça peut toujours rebondir d'un moment à l'autre. J'ai beaucoup aimé, apprécié que les étudiants parlent de la dénonciation de la mauvaise gouvernance et de la mauvaise gestion de leur organisation par celui qui était à la tête. Et c'est là que je trouve, on avait déjà parlé de cela une fois avec vous, c'est qu'en règle générale, quand on prend des questions importantes de gouvernance et qu'on les camoufle sous des discours identitaires pour essayer de mobiliser les populations, alors là, on ne peut pas travailler à réconcilier, à tenir un langage positif, un langage d'unité, parce que ça, il en va de la survie d'un régime ou d'un pouvoir. Mais si on aborde les questions de gouvernance, notamment la gestion du bien commun, la gestion des ressources naturelles, la gestion du respect des droits humains fondamentaux, qu'ils soient civils et politiques ou économiques, et que ces questions de fond-là sont abordées par ceux qui gèrent l'État, il devient facile d'adapter le discours. Mais si au départ les problèmes structurels n'ont pas de solution et que les dirigeants n'ont d'autre recours que le recours aux identités tribales ou ethniques pour justifier les questions de gouvernance, alors on est mal barré dans une nation.
Alors, vous évoquez la question d'adresser les questions fondamentales, les questions qui sont à la base donc des frustrations. Mais d'un point de vue linguistique, au-delà de régler ces problèmes structurels que vous évoquiez, au niveau linguistique, qu'est-ce qui peut être fait pour promouvoir justement l'utilisation d'un langage plus positif, plus inclusif, qui ne recourt pas toujours au discours, à la menace du discours séparatiste Alain-Joseph Lomanja?
Si vous permettez, je voudrais quand même dire que le langage est un moyen, un moyen d'expression, un moyen de traduction des problèmes de société. On peut chercher des solutions au niveau linguistique, mais tant que le problème demeure, on ne pourra pas trouver des solutions durables aux usages du langage. Il y a des solutions qui peuvent être prises de manière dictatoriale, par exemple, on dit, comme dans un pays africain, que les ethnies n'existent pas, donc on ne parle plus d'ethnie dans notre pays. Est-ce que ça va résoudre le problème? J'en doute beaucoup. Donc pour moi, je me dis, le langage, oui, il faut apprendre aux enfants à éviter certaines expressions qui peuvent blesser, à ne pas considérer l'autre tout simplement à cause de sa morphologie ou quoi. Mm-hmm. C'est important. Mais ce ne sera que des solutions provisoires. Et je crois qu'il faut travailler sur les questions de fond pour pouvoir éviter le langage qui n'est que l'expression des problèmes de société.
Oh, merci, Alain-Joseph Lomanja. La dernière question est pour vous. Itiel Batoumike, en tant que citoyen, quel rôle pouvons-nous jouer pour préserver l'unité nationale à travers le langage que nous utilisons et quels signaux devons-nous surveiller pour repérer un langage séparatiste avant qu'il ne devienne une menace pour l'unité et la stabilité du pays?
Les problèmes que traversent les pays qui peuvent un jour causer la séparation du pays ne sont pas nécessairement à voir dans les langages qui sont proférés du jour au lendemain dans le quotidien des Congolais. C'est beaucoup plus des problèmes structurels qui sont à la base de ces langages qu'il faut vraiment regarder de plus près et voir comment les résoudre. C'est pourquoi je disais que je suis dans la même ligne de pensée que le père Alain-Joseph, parce que j'estime que ces problèmes structurels sont un grand problème, sont un grand obstacle pour l'unité nationale au Congo. Mais comment on peut arriver à parler le même langage dans un pays où les gens ne se connaissent pas? Il faudrait que ceux qui gouvernent ces pays ouvrent les pays à travers des infrastructures routières, ferroviaires, afin que les gens circulent et se connaissent entre eux. Parce que la solution, finalement, ce n'est pas de dire qu'il y a les uns et les autres. La solution, c'est de dire que nous sommes une nation et pour cela, il faut que les gens se connaissent. La deuxième solution que je pense pour arriver à réduire ce discours séparatiste, c'est de faire en sorte que certaines questions qui ne devraient pas être tribalisées ne le soient pas. C'est par exemple la question des partis politiques. Les partis politiques devraient être des cadres qui permettent en fait que l'unité nationale se renforce. Mais vous allez voir que la plupart des partis politiques, non seulement qu'ils appartiennent à leurs leaders politiques, mais ils sont aussi tribaux s'ils ne sont pas régionaux ou provinciaux. Donc on doit arriver à régler tous ces problèmes-là et aussi lutter contre les déséquilibres qu'il y a parfois dans la répartition des postes et même dans la localisation géographique de certains projets de développement. Parce que c'est cela, en fait, qui, à un moment donné, fait que les gens ont l'impression qu'il y a un pouvoir pour un tel clan auquel appartient un dirigeant politique, alors que le pouvoir, il appartient au peuple, et au peuple en général, pas seulement un peuple auquel appartient le président de la République. Il y a quelques années, ici, on disait que le pouvoir était des Baswahili. Aujourd'hui, on dit le pouvoir des Baluba, alors que ce n'est pas le cas. Il y a des Luba qui manquent même à manger à cette heure où on parle, alors que c'est le président de leur coin. Donc, il faut que les gens fassent attention à ça et que la répartition des ressources des richesses du pays et des postes donc, soit aussi représentatif de tous les milieux possibles. Et c'est pour ça que je pense que pour renforcer l'unité nationale et mettre fin à ce discours, on doit aussi corriger ce déséquilibre en faisant en sorte que la Caisse nationale de péréquation fonctionne normalement pour compenser le déséquilibre de développement entre les provinces qui sont nanties en richesse et celles qui ne les ont pas.
Merci encore une fois, Itiel Batoumike, pour cette dernière intervention qui nous permet donc d'amorcer la conclusion de cet épisode de C'est le ton qui fait la panique. Aujourd'hui, nous avons exploré un sujet aussi complexe que récurrent, à savoir le langage séparatiste, Babel.
Oui, Pauli, ce langage séparatiste est l'expression de frustration réelle pour certains. Néanmoins, il peut devenir une menace pour l'unité et la stabilité du pays.
Il est donc essentiel de comprendre l'origine de ce langage pour mieux y répondre. Hein. Nos invités l'ont dit clairement dans leurs interventions. Ces discours reflètent souvent des injustices ou des inégalités perçues par une partie de la population. Ignorer ces ressentis, c'est donc prendre le risque d'alimenter encore plus les divisions et les tensions.
Et renforcer l'unité nationale passe donc par le dialogue, la reconnaissance des identités multiples en réel effort pour inclure tous les citoyens dans la construction de cette maison commune qu'est le Congo.
Merci encore une fois à nos invités Itiel Batoumike et Alain-Joseph Lomanja pour vos analyses très pertinentes. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre attention et votre fidélité. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, un magazine proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.
Avant de nous quitter, sachez que vous pouvez retrouver cet épisode en rediffusion samedi 11h05 et 19h05 heure de Kinshasa ou le réécouter sur notre site web www.radiokapi.net et sur www.abarirdc.net.
N'oubliez surtout pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, X, anciennement Twitter, de Radio Okapi et Abari RDC. Encore une fois, merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.